Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans ce 11e épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et de vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Le soir du 8 décembre 2022, Céline Dion, oui, la star mondiale, prend la parole dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, larmes aux yeux et trémolo dans la voix, elle annonce l'annulation de sa tournée européenne. Elle articule doucement être atteinte d'une maladie extrêmement rare qui l'empêche de bouger, de chanter ou tout simplement de vivre normalement. Céline est atteinte du Steve Person Syndrome, une maladie rare, tellement rare qu'elle touche une personne sur un million.
Je me donne toujours à 100% dans mes concerts. Mais présentement, je ne suis pas en état de le faire.
Au fur et à mesure que la vidéo se déroule et que Céline explique ses symptômes et sa condition, ce n'est pas tellement l'annulation de sa tournée qui me chiffonne, même si entre nous soit dit, c'est deuxièmement horrible, mais derrière mon écran, je ne peux m'empêcher de penser à mon amie Pauline. Pourquoi ? Et c'est le moment du flashback. Pauline et moi avons la passion commune des grands espaces, des voyages qui changent la vision de la vie et de raconter des histoires. Il y a de ces amitiés qui ne s'expliquent pas, une sorte d'amitié entre deux adolescentes de 30 ans passés dans une boîte avec une étiquette d'idole dessus. Et c'est lors d'un tournage en Inde que l'on s'est immédiatement reconnue. Pourtant, tout nous oppose, l'une est ch'ti et l'autre toulousaine. Ce qui m'a toujours frappée chez Pauline, et surtout en Inde, c'était cette émotion permanente de se laisser surprendre par la vie, de s'émerveiller de chaque petite chose et surtout de chaque rencontre. J'avais du mal à comprendre comment elle arrivait à avoir cette personnalité alors que je traversais de mon côté une phase complètement inverse, où je n'arrivais plus du tout à me connecter à rien, tant mon cerveau avait vu de choses pendant ce voyage sans avoir eu le temps de les processer. J'étais très admirative de cette énergie et de cette stratégie mise en œuvre pour simplement vivre, en ne ratant aucune miette d'un potentiel petit bonheur qui pourrait en découler. Un jour, pendant une randonnée, les jambes de Pauline n'arrivent plus à la porter, elle et son amour pour la vie et les grands espaces. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on peut chuter parce que tout cet amour est trop lourd ? Le parcours du combattant pour un diagnostic médical commence, les randonnées se passent désormais dans les hôpitaux et les nouvelles rencontres sont avec des médecins qui ne savent pas ce qui cloche. Les semaines et les mois deviennent moins exotiques, moins dépaysants, mais surtout, Pauline ne rit plus autant. Un après-midi, le verdict tombe. Pauline est atteinte du syndrome de la personne raide, aussi appelé syndrome de l'homme raide. C'est un trouble neurologique rare et c'est le mot qui revient le plus souvent quand on cherche des infos sur la maladie, de cause peu claire, caractérisée par une raideur progressive. La raideur affecte principalement les muscles du tronc et est superposée à des spasmes entraînant des déformations posturales. La douleur chronique, la mobilité réduite et l'hyperlordose lombaire sont des symptômes courants. En gros, le malade souffre et ne peut plus bouger tant les muscles sont contractés. Et si vous dites tout ça en anglais, vous obtenez le Steve Person Syndrome. Exactement le même diagnostic que Céline Dion. Alors comment faire avec cette maladie, alors même que son passe-temps préféré, c'est vivre? Et aussi une question importante se pose. Faut-il jouer au loto quand on découvre qu'on a une maladie qui touche une personne sur un million? C'est le début d'une longue aventure, l'aventure du début du reste de sa vie. Voici Pauline, qui a décidé de mettre un mot devant l'autre et des blagues pour vous raconter son histoire. Bonjour, aujourd'hui mon invitée c'est Pauline.
Oui,
aka Popo.
Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde t'appelle Popo ou il y a que moi? Non.
Non, tout le monde m'appelle Popo.
Popo c'est cool.
Popo c'est cool ça.
C'est la
mieux que Popol.
Et ça commence si bien. Le thème d'aujourd'hui est un peu particulier, mais avant tout, on va parler de ton parcours. Est-ce que Popo, tu peux nous dire qui tu es ?
Alors oui, mis à part le fait qu'on me surnomme Popo, je m'appelle donc Pauline.
Avant toute chose.
J'ai 33 ans, je suis née à Lille, je suis créatrice de contenu aujourd'hui, et puis je suis atteinte d'une maladie depuis 2 ans, un sujet dont on parlera sans doute plus tard. Mais voilà, c'est à peu près mon parcours, donc je suis une ch'ti...
Une
vraie ch'ti. Et je pense que ça va s'entendre à un moment
ça,
ou à un autre.
Ça s'entend déjà.
Ah, merde, j'ai essayé.
J'entends des petites frites frétiller dans mon oreille. Non, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens en ch'tiland ?
Alors en ch'tiland, je suis née à Lille et j'ai vraiment grandi à 15 minutes de Lille jusqu'à mes 30 ans, quoi.
Tes parents sont du Nord?
Oui, mes parents sont du Nord. Ils se sont rencontrés en vacances, en Ardèche.
Pendant une chaude nuit
au camping.
Ah oui.
À la guinguette. Et puis, et oui, donc j'ai grandi dans le Nord. Et j'y ai vécu jusqu'à il y a 6 mois, quoi.
Tu là-bas, t'as fait toute ta scolarité?
J'ai fait ma scolarité, alors primaire, bac dans le Nord. J'ai passé mon baccalauréat en art appliqué à l'ESAT. C'est une école d'art, de stylisme et tout ça. Et ensuite, j'ai fait un équivalent de BTS en tant que décoratrice merch. Et ensuite, je suis devenue donc décoratrice merch chez Etam.
Donc, tu faisais tout ce qui était l'optimisation du magasin pour le rendre le plus attractif.
C'est ça. Aussi. À l'époque, ils cherchaient vraiment des merch à temps plein. Et moi, j'ai eu la chance de tomber pile à ce moment-là. Et du coup, j'étais le merch et totalement free dans la déco de chez Etam Lingerie. Et du coup, moi, j'avais accès à des énormes tissus de dentelle et tout, donc la créa était folle. Enfin, j'étais vraiment totalement free au niveau des vitrines et tout ça.
Ça devait être quand même.
Ouais, c'était vraiment super cool. Donc j'étais en CDI et puis la crise est arrivée et c'était beaucoup moins cool parce que j'avais beaucoup moins de liberté et j'ai toujours été très créative et je n'avais que 21 ans. Je me suis dit non, pas de CDI à 20 ans, non, où tu te fais chier, ça me correspond pas. J'aime trop l'aventure pour ça et j'ai dit YOLO, je pars, je démissionne et j'ai tout quitté.
Du coup, toi, ton parcours, t'as toujours eu l'impression que tu pouvais un peu devenir qui tu voulais en termes de métier, de créativité, etc. Est-ce que tes parents, ils t'ont poussé à avoir peut-être une fibre un peu créative, ce qui fait l'essence même de ton métier aujourd'hui, parce qu'on reviendra dessus, mais tu fais de la photo, de la vidéo. Enfin, il y a une forte attirance pour la création. Et souvent, ça vient toujours de quelque part, tu vois.
Alors, je ne sais pas de où c'est venu exactement, mais j'ai toujours aimé, en tout cas, mon père bricole beaucoup. Et je me souviens que au lieu de, enfin, c'est très cliché, mais à notre âge malheureusement c'était ça. Au lieu de jouer à la dinette, j'adorais aller bricoler avec lui. J'avais ma mallette du bricoleur et je me vois encore, enfin, faire du bricolage avec lui. Donc j'étais très manuelle à ce niveau-là et puis je faisais des maquettes avec lui. Donc je pense que ça vient de là. En fait, le truc c'est que je voulais être publicitaire, publiciste. Et puis je savais pas vraiment dessiner, mais j'avais cette créativité. Donc j'étais très forte en art plastique au collège. Et puis finalement, au collège, on te dit pas forcément toutes les pistes. Et il y avait 2 écoles potentielles qui s'offraient à moi en art appliqué pour ce que je voulais faire. Et mais moi j'avais vraiment, j'étais une bite en dessin, quoi. Sauf que l'école où je suis rentrée, il fallait, c'était sur 2 ans de concours. Donc, dès la 4e, tu étais évaluée sur ton parcours scolaire. Et je suis arrivée dans une classe d'élite, en fait, où tout le monde était plus ou moins premier de la classe. Et donc, je suis arrivée en seconde en art appliqué. Et j'ai fini dernière de la classe.
C'est bon, ça.
Donc oui, ça forge l'esprit. 14 ans, 15 ans, en seconde, direct, ta créativité, elle en prend un coup parce que t'es jugée par des adultes qui sont eux-mêmes artistiques. Moi, du coup, je savais vraiment pas dessiner. En fait, c'était un vrai point négatif. Et puis, en fait, j'ai réussi quand même à me démarquer et puis j'ai fini en étant décoratrice.
Est-ce que toi, ton rêve ultime de carrière, c'était quoi ?
C'était la publicité, vraiment. Et puis en fait, les années au lycée m'ont montré que c'était moins cool. Il y avait l'histoire de 99 francs et tout.
Ça donne plus trop envie.
J'ai plus trop envie de ça. Et la déco m'attirait vraiment, le merch aussi, ça me passionnait un peu. Et puis le fait que je trouve cette école qui était un peu hybride, où on apprenait la photo et puis on faisait aussi de l'histoire de l'art, on faisait un peu de tout, me plaisait vraiment. Et du coup, je me suis dit, allez, go, je fais ça. Et puis, on verra où ça me mène. Et puis, finalement, j'étais décoratrice.
Et comment on arrive de décoratrice à ton métier actuel ? On fait pas tout à fait le même métier, mais on s'est rencontrés parce qu'on est dans le même milieu. Comment t'as fait la passerelle entre, du coup, ton dernier job et ton métier actuel ?
Alors, en fait, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, j'étais en CDI. Et je me faisais vraiment, vraiment chier.
C'est une bonne raison pour changer. Si vous vous faites chier dans votre job.
Et en fait, j'ai toujours aimé voyager. Donc, j'aurais pu mentionner ça, une facette de ma personnalité qui a toujours été un peu aventurière. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une petite ville, dans un quartier où il y avait un terrain de jeu, où je pouvais jouer avec mes copines et j'avais une limite à ne pas dépasser. Mais je dépassais toujours cette limite. Donc, j'ai toujours eu le goût d'aller un peu plus loin pour voir ce qui se passe.
L'aventure,
quoi. Et je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et c'était à l'époque, du coup, vers 2008, où tout le monde partait en Australie. Et moi, j'étais là, mais putain, ils vivent leur meilleure vie. Ils partent un an en Australie, mais c'est mon rêve. Et j'avais voyagé avec mes parents, mais j'avais vraiment soif d'aventure, de vraie aventure. Et du coup, à l'époque, j'ai dit, bon, je démissionne et je quitte tout et je pars 6 mois en Asie. À l'époque, grâce à un blog voyage d'une cousine de ma meilleure amie, mais c'était les blogs qu'on faisait en...
Tout début des blogs.
Oui, en 2010, où elle disait, bon, ben voilà, je viens d'arriver à Ho Chi Minh, j'ai mangé des pâtes. Vraiment, on donne pas d'adresse, enfin, on raconte nos vies, quoi. Et moi, je me suis dit, ok, ça serait cool que je fasse ça aussi. Donc, j'écrive un blog, mais à titre plus informatif, donc en donnant des adresses, en utilisant un peu mon parcours artistique, du coup, en faisant de la photo, et puis en essayant de faire un mix de tout ce que j'ai appris, tout en voyageant, en fait.
De le mettre au service de ta passion.
Ouais, c'est ça. Et puis, surtout, ne pas perdre le fil. Alors, c'était pas du tout stratégique. C'était pour la famille d'abord. C'était pour qu'ils me suivent en plus, en dehors de Skype. Et à l'époque, c'était Viber. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis finalement, donc, se sont écoulés un peu plus de 6 mois en Asie, où c'était beaucoup trop cool.
L'aventure,
non, j'étais avec Benoît, mon ancien compagnon, du coup. Et en même temps, à la fois, j'étais un peu exigeante, même carrément exigeante, sur le fait que je voulais rester max 3 nuits sur un lieu. Parce que finalement, en 6 mois de temps, on a fait 9 pays, ce qui est énorme Crassé. Maintenant. Mais ce qui fait qu'au bout de 5 mois de backpack, t'es un peu sur les rotules. Mais ça nous a forgés et c'était vraiment une bonne école du voyage. Enfin, c'était vraiment bien. Et surtout, j'avais pas vraiment d'idée précise, hormis le fait que je voulais faire à tout prix un trek qu'on a fait du coup au Népal, que je voulais à prix qu'on traverse. Un trek qui a duré un peu plus de 15 jours, qui est le tour des Annapurna, donc le col de Trong La Pass, et du coup sans préparation physique évidemment.
Nickel, on n'en attendait pas moins de toi.
En mode, je prends mon Lonely Planet, j'ai pas du tout, enfin vraiment, c'est quand j'y repense, je me dis, mais on n'avait aucun matos technique.
J'ai pris mes claquettes, j'ai pris mes Havaianas.
Mais on n'avait rien de technique, on avait juste des trucs quechua, enfin il n'y avait rien qui allait, ouais. Et en fait, tout s'est bien passé.
Ça a duré combien de temps? C'était 6 mois. Du coup, vous étiez un duo, si on peut dire, un duo créatif.
Oui.
Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire votre métier? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas connu comme métier.
Non, pas du tout.
Métier.
En fait, oui, ça ne nous a pas donné vocation, mais en tout cas, ça nous a donné l'envie de continuer parce qu'on a alimenté ce blog. On a commencé à partager des photos sur Insta. Alors, si les gens vont voir, c'est ridicule parce que je pense qu'il doit y avoir 3 photos de ce voyage sur Insta. Et on partageait exclusivement sur Facebook. On ne faisait même pas de vidéos, donc c'était vraiment article 100%, quasiment 100% blog pendant 6 mois. Et puis au retour, finalement, c'était devenu un peu une routine quand même en voyage de se faire des articles. Donc au bout de 6 mois, j'avais quand même quelques articles en retard. Donc je les ai finis et puis on était reparti en Écosse, on avait fait des trucs par-ci, par-là. On a toujours alimenté ce blog et puis finalement, on a commencé à recevoir des propositions en disant « Ah, le blog est cool, est-ce qu'on peut faire des articles invités ?» Et nous, on découvrait un peu ça, c'est quoi ? Et puis en fait, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. On s'est pris dans le move du truc sans trop comprendre comment ça allait se passer et où on allait arriver. Ça s'est fait vraiment comme ça, naturellement, mais sans vraiment stratégie, hormis le fait qu'on voulait que ça se fasse bien, quoi. On voulait faire les choses bien et la plus authentique possible. Je me souviens, je pense que le premier contrat, c'était Dublin. Et ça me paraissait fou parce qu'on me proposait justement de partir à Dublin pour découvrir la ville en étant rémunéré et créer du contenu. Et j'étais là, mais... Bah, du coup, c'est ce que je fais depuis 2 ans de moi-même, donc c'est vraiment trop cool. Et ça s'est fait comme ça. Et finalement, le fait que ce soit devenu une profession naturellement, on s'est vraiment formé pour le coup, on a vraiment pris le truc au sérieux en se disant là, on est rémunéré, il ne faut pas qu'on fasse de la merde, en fait. On s'est formé à la vidéo, on s'est formé à la photo, vraiment. Tout de suite, on s'est dit, OK, si ça devient quelque chose d'important dans nos vies, il faut qu'il y ait un minimum de stratégie derrière. Pas de stratégie en mode business plan et tout, mais où est-ce qu'on veut aller éthiquement, en fait. Pas aller n'importe où et qu'on garde ce truc-là d'aventure qui nous plaît. Et du coup, en essayant de fonder quelque chose autour de 4 piliers qui sont aussi simples, mais qui est l'authenticité, la sincérité de l'aventure, de la nature et de tout ce qui tourne autour de l'écologie. En fait, donc en faisant des interviews de mecs qui partent faire le tour du monde à pied ou faire des interviews de mecs qui vivent dans des maisons autonomes ou en relayant des articles, des trucs comme ça.
Un autre tourisme au final que celui qu'on voilà, a l'habitude c'est ça. De voir.
Et puis avec toujours ce slogan, et du coup c'est là-dessus qu'on fera une petite transition avec ma vie un peu plus privée, mais avec toujours ce slogan de profiter partout, tout le temps, en fait, de vraiment kiffer chaque jour comme si c'était le dernier, quoi. Et c'est aussi un peu ma personnalité, je crois.
Et t'as toujours eu cette personnalité-là, depuis jeune, de te dire la vie, elle est cool, elle est courte et il faut en profiter. Est-ce que t'as toujours eu cette vision-là
Oui, ça, c'est vraiment une facette de ma personnalité, de mon caractère. C'est que je n'arrive pas à me disputer avec les gens. Peut-être un problème.
C'est vrai, on ne s'est jamais disputé, faut faire un effort.
Non, mais c'est vrai, j'ai très peur des disputes, je déteste ça. Parce que pour moi, si on se dispute et que dans une heure, il se passe quelque chose...
J'ai peur de le regretter.
J'ai peur de le regretter tout le temps, quoi. Je veux zéro regret dans ma vie. Du coup, je vis toujours comme si tout pouvait arriver. Donc vraiment, je vis intensément depuis toujours, je pense.
Pour faire le petit pont dont on parlait tout à l'heure, du coup, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Parce qu'on a des amis en commun, déjà. Oui. Mais des amis qui sont dans ce milieu-là. Donc il y a quand même globalement de fortes chances qu'on se rencontre. On se ressemble un peu physiquement, vite fait. Juste. Quand on se retrouve sur les mêmes tournages et qu'on est de dos, c'est un peu compliqué pour les équipes. Mais de face, ça va, on se ressent pas. Mais en gros, je pense qu'on s'est... ce serait pas mentir que de dire qu'on s'est un peu reconnu quand on s'est croisés, rencontrés pour la première fois. Ouais. Et on est partis en Inde pour un tournage ensemble. Et on se connaissait pas, donc c'était marrant parce que partir avec quelqu'un en voyage quand tu te connais pas, ça peut vite être casse-gueule. Pour moi, partir en voyage avec quelqu'un, c'est le meilleur moyen de connaître cette personne, tu peux pas tricher.
Oui, c'est ça. Et puis tout est décuplé en fait, les émotions, tout.
Exactement, tout.
Surtout en Inde, quoi.
Évidemment, ça a matché. Évidemment, on a beaucoup rigolé, on a pleuré aussi. J'ai pleuré aussi. Bref,
le stress, la fatigue, les épices, tout ça.
Ouais. La tourista, bon. Mais en gros, ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que on peut vite dans ce métier être blasé parce que on voit tellement de choses et ça m'est arrivé aussi de voir tellement de choses, de rencontrer tellement de gens que presque t'es anesthésié. Parce que tu penses au contenu que tu vas devoir créer, à l'histoire que tu vas devoir raconter. Et du coup, moi, j'avais tendance à me noyer dans ce que j'allais devoir faire. Et je trouvais que toi, tu étais très relaxe par rapport à ça. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ah, on peut aussi faire du bon travail et mettre la qualité qu'on a envie d'y mettre, mais garder du recul et rester quelqu'un d'entier, de sympathique, de léger, en fait. Et ça fait du bien parce qu'au final, dans ce métier, tout le monde n'est pas comme ça. Et même moi, je pense qu'à une période, je me suis perdue un petit peu. Et je trouve ça super chez toi. Genre, je trouve ça incroyable d'arriver à garder ce truc de balance entre le travail, le perso, le pro, et de rester quelqu'un de gentil et de drôle.
Bah merci.
C'est dur.
Super dur. C'est dur dans un monde de méchants.
Oui.
Mais
des gens pas drôles.
Non, mais c'est vrai que c'est une... Après, c'est un métier passion aussi, donc c'est aussi différent. Je suis pas comptable. Si tu me mets à la compta, je pense que je vrille total. Je pense que je serai quand même gentille.
J'espère que je serai quand même gentille.
Mais sur le fait que je ne sois pas blasée, oui, je suis complètement, clairement quelqu'un d'éternellement émerveillé. Et ça, je tiens ça de mon père. Et si ma mère et ma sœur écoutent ce podcast, elles vont beaucoup rigoler parce qu'avec mon père, on est insupportable là-dessus. On va se dire « Oh !» Putain, regarde, il y a une feuille, elle est magnifique. Mais oh, ouais, le mais... caillou, mais on peut le rapporter, le prends dans ma poche, il est trop beau.
C'était exactement comme ça.
Mais je suis tout le temps comme ça, et c'est fatigant en vrai.
C'est vrai.
Mais oui, je garde ça, et tant mieux en fait, parce que j'ai aussi des amis qui sont comme ça, et c'est rare, sont les personnes qui sont émerveillées, pas blasées de la vie, et qui profitent à 100% en fait.
Du coup, en plein milieu de tous ces voyages, entre les photos, les vidéos, les blogs, les réseaux sociaux, puisque tout est mélangé maintenant, bah toi, il t'est arrivé petite sortie de route. Et cette sortie de route, elle m'a vachement parlé, puisque j'ai pas eu la même, mais presque. C'est au moment où on se dit tout est parti, tout est lancé, et hop, attention, et enfin, attention, on a des petits trucs à faire à côté. Bah, c'est la santé, et la santé, c'est quand, surtout quand tu es en voyage, c'est un peu primordial parce que des fois tu es dans des coins un peu reculés. Il faut toujours être au top de sa forme quand on est en voyage, surtout quand c'est des commandes avec des clients. Et toi, je t'ai toujours vu avec ton gros sac, avec ton appareil et tout ça, et jamais te plaindre, jamais râler. Et est-ce que tu peux nous raconter comment un jour tu as senti que bah, ça a commencé à changer?
En fait, je n'ai pas senti que ça a commencé à changer. Je pense que j'ai occulté. Je pense que ça vient de là, surtout. C'est que tu n'écoutes pas vraiment ton corps. Donc, tu le pousses. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier passion. Donc, tu écoutes ta passion en premier et pas forcément ton corps qui te dit que tu es un peu fatigué. Et dans ce travail-là, c'est vrai que pendant 5 ans, on a pas mal enchaîné. On a bougé à droite, à gauche, sans arrêt. Moi, j'ai commencé à avoir mal à la jambe droite, plus dans le pied, fin 2019. Donc, fin 2019, je commence à avoir mal dans le pied. Mais à cette époque-là, je me pose un peu plus puisqu'on vient d'acheter une maison. Et du coup, je suis aussi un peu plus stable, même si on continue toujours de bouger. Mais vraiment, on a une maison. Et du coup, je reprends le sport. Je reprends le sport en club. Et donc, j'ai mal au pied en décembre. Je vais voir ma médecin généraliste qui me dit « Mais c'est normal, vous avez repris le sport. » Même si je n'ai jamais du coup arrêté avec les voyages, vous avez juste une tendinite. Ça se tient. J'ai mal, mais je dis « Ok, ça fait mal une tendinite quand même.
» C'est pas ouf la tendinite.
Et elle me dit « 3 semaines de repos. » Ok, sauf que dans ce métier, c'est pas possible.
Non.
Donc, je continue, je marche. Et puis, arrivent toujours les contrats, on continue. Et puis, en fait, arrive le Covid, surtout. Et donc, ça fait 3-4 mois que je traîne cette tendinite, en fait. Je vais voir avant le Covid ma généraliste qui me dit « c'est quand même bizarre que ça passe pas. On va faire des séances de kiné, mais surtout, il faut mettre du froid et surtout se reposer. » Et là, moi, je vrille parce que c'est
Muriel, ce n'est pas possible.
Je vrille parce que c'est pile le moment où enfin je suis chez moi. J'habite en face de chez ma mère. On était tous confinés et il faisait méga beau. Oui. J'avais la chance d'avoir un jardin et j'avais entrepris le fait de faire un régime. Et puis donc je faisais du sport, je maigrissais en même temps, mais j'avais toujours cette petite douleur, mais qui n'était pas si intense que ça. Mais je supportais en vrai. Et parallèlement à ça, on a lancé un projet dont tu faisais partie aussi.
Ça s'appelait « Cet été, je visite la France ».
Et donc parallèlement à tout ça, en fait, on continue de travailler. C'est là que je commence à me rendre compte que la douleur devient de plus en plus intense. Et le moindre stress, la moindre émotion, là je pose les mots dessus, mais je ne savais pas que c'était une émotion qui déclenchait ça, me faisait mal. Donc,
physiquement, tu avais mal.
Physiquement, j'avais mal et surtout, j'arrivais de moins en moins à poser le pied. C'était du coup le confinement, il y a eu le déconfinement et j'ai pu aller enfin chez les séances de kiné qu'on m'avait données avant le Covid. Et j'ai fait les séances de kiné pour soigner cette tendinite, qui à la base est une tendinite médicalement parlant. Et le kiné m'a mis des électrodes en fait pour stimuler le tendon. Et plus j'y allais, plus j'avais mal et du coup, moins je posais le pied. Et c'était de plus en plus flippant parce que vraiment, j'ai un van et je montais dans le van et à moindre émotion, paf, ma jambe, elle se paralysait. Je contrôlais que dalle et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, je suis allée une première fois aux urgences. Ils m'ont fait évidemment des examens en faisant un écho, en me disant, bah oui, effectivement, il y a une tendinite. On ne peut rien faire pour vous, mis à part vous reposer. Et moi, là, j'ai dit, OK, je vais vraiment me reposer. Et de toute façon, là, physiquement, mon corps me disait non. Donc, j'ai un peu arrêté, j'ai un peu freiné. Ça a duré 10 jours, vraiment, ce laps de temps où ça s'est vraiment dégradé entre le kiné et le moment où vraiment je ne pouvais plus marcher. Je suis allée une deuxième fois en panique, seule, encore aux urgences. Je disais vraiment, j'ai vraiment mal et ma jambe, je la traînais vraiment comme une jambe de bois, quoi. Deuxième fois aux urgences, je me suis fait refouler en me disant, non, en fait, on trouve rien. Et là, ils avaient un peu pris un peu plus au sérieux, ils m'avaient fait une IRM et tout. Mais toujours rien, quoi. Juste, reposez-vous. Peut-être 3-4 jours après, là, vraiment, j'avais des spasmes de fou dans la jambe. La jambe, je ne savais plus marcher, tout simplement. J'étais paralysée. À la troisième fois où je suis allée aux urgences, là, j'y suis allée avec ma mère. Ma mère a vraiment pété un plomb en disant « Non, mais elle ne sait plus marcher. C'est pas une tendinite. » Et puis, elle n'est pas douillette. C'est vrai, je ne suis pas quelqu'un de forcément douillés, qui s'écoutent encore moins. Et du coup, elle a dit, c'est pas possible, elle a forcément quelque chose. Et vu que ça dépassait tout le domaine de la compétence de médicale traumatique, ils m'ont envoyée en neuro tout de suite. Et j'y suis restée 5-6 jours, je crois, assez en panique parce que du coup, c'était les émotions. Encore une fois, je ne savais pas que c'était les émotions et le stress qui faisaient que c'était amplifié. Mais j'avais mon ordi. Donc, je préparais les séjours qu'on allait prévoir en juillet. Donc ça, c'était en juin 2020. Et de notre côté, on partait découvrir la Réunion et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais à l'hôpital en train d'envoyer des mails en disant « Oui, oui, je vais faire des randos », alors que j'étais paralysée sur mon lit d'hôpital.
Ah, t'arrivais pas à te dire que...
En me disant « Ben non », parce que ça faisait du coup 2-3 mois, tout le Covid, là, du confinement qu'on préparait ce projet. Et dans ma tête, c'était pas possible, en fait, que je ne marche plus. Enfin, complètement dans le déni du truc, quoi. Et en fait, pendant 4-5 jours, j'ai vu des médecins neuro, j'ai vu des kinés spécialistes en neuro, j'ai vu un professeur de neuro du service qui ne comprenait pas et tout ça. Et il me posait toujours les mêmes questions. Et moi, j'étais en panique, j'étais seule, parce qu'en plus, pendant cette période-là, il y a très peu de visites, ou alors j'avais le droit qu'à une ou deux personnes, une heure par jour. Donc j'étais en panique totale en me disant peut-être que je ne vais plus du tout marcher, comment ça va se passer ? Et finalement, en fait, ils ont décidé de me faire une ponction lombaire pour aller un peu plus loin dans tous les examens qu'ils allaient me faire. Et donc, elle m'a fait la PL. Et puis, surtout, j'ai vu mon neurologiste, pardon, qui me suit encore aujourd'hui, qui, lui, était beaucoup plus jeune que les autres. C'est lui qui m'a posé la question, qui a tout changé. Il m'a dit, est-ce que tu t'aperçois qu'à la moindre émotion, ou si quelqu'un rentre dans ta chambre, ce qui est le cas souvent à l'hôpital, est-ce que... ta jambe est plus rigide à ce moment-là. Et je me suis dit, bah en fait, oui. Et il a dit, ah, ok. Et puis, il s'est barré.
Il est parti.
Et
ben merci, c'est tout pour moi.
C'est tout. Allez, ce podcast, c'est fini. Non, j'ai vu dans sa tête qu'il avait compris un truc et qu'il allait revenir. Mais il m'a posé ces questions-là en me faisant les mêmes examens que les autres neuros me faisaient faire, c'est-à-dire l'enfer. Me faire marcher quand tu ne sais pas marcher, c'était vraiment horrible et très douloureux. Et je me disais, mais ils se foutent de ma gueule parce que vraiment, ça fait mal. Tu pleures, tu as ton corps qui tremble, tu es en traumatisme parce que tu sues, tu as mal, enfin, tu as des sueurs froides et tout. Et je ne savais vraiment plus marcher. Et donc, j'ai vu quand j'ai dit oui, qu'il a tilté. Il a dit, on va essayer un truc. Et il m'a donné un truc, effectivement, qui s'appelle du Valium, en fait. Donc, c'est la benzodiazépine. Donc c'est une molécule normalement qu'on donne soit aux toxicomanes, soit aux gros anxiolytiques. Donc ça permet en fait de relâcher tous les muscles,
corps,
calmer le corps et tout ça. Mais normalement, on donne ça sur une courte période. Et il a dit, on va essayer ça et je reviens dans 10 minutes, mais il y a de fortes chances que vous dormiez. Et j'étais là, ok, ben go. Enfin voilà, ça fait 6 jours que je suis là, ils m'ont fait tous les examens. Je prends ce truc-là, il revient, je suis debout dans la chambre et je danse. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous m'avez donné, quoi ? Je ne suis plus la même personne, je suis redevenue moi, je marche, je regardais.
T'as senti que ça faisait effet ?
Mais oui, et il m'a dit, mais vous n'êtes pas fatiguée ? J'ai dit, si, un peu, mais regardez, je marche, je saute, regardez, ça a tout changé. Et il a dit, ok, ben alors je pense savoir ce que c'est, mais c'est donc la ponction lombaire qui va le déterminer, et on sera dans un mois et demi. Je suis repartie le lendemain, je crois, avec une ordonnance, avec du Valium pour un mois d'abord. Et il faut savoir que le Valium, c'est très fort pour
ouais.
Donc moi, j'en avais toutes les 6 heures à prendre, ce qui n'est pas très pratique parce que...
Je me rappelle parce qu'on est partis en vacances ensemble, juste après.
Ouais. Et du coup, j'étais complètement def. Hein,
tremblais beaucoup quand même.
Oui.
Même au début de ton traitement, tu disais que tu te sentais mieux et tout. Mais quand on s'est vu, tu tremblais.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Beaucoup. Et
ben oui, tu trembles. J'ai eu aussi des problèmes de diction. En fait, tu perds complètement la parole. Alors ça, c'est très flippant. Et du coup, bah, pendant 2-3 mois, c'était un peu « j'accepte le médicament dans mon corps ». Donc, c'était là où tu m'as vu. Bah, j'ai fait les projets qu'on devait faire, mais complètement shootés. Je ne sais même pas aujourd'hui comment j'ai fait pour les faire parce que je fais presque un blackout parce que j'étais complètement def, en fait.
C'est un temps où tu aurais dû rester à te reposer, en fait.
Oui, complètement. Et en fait, pas du tout. Et on a fait les randos, donc je suis tombée. On a failli arrêter parce que j'ai fait 2 grosses chutes en montagne. Et je me dis, c'est complètement débile, mais bon, quand t'es dans le move, tu te dis OK.
Et t'avais envie de te prouver que tu pouvais le faire.
Oui, et surtout, j'avais pas de contre-indication. Il m'a dit OK, go, c'est bon, en fait. Et en fait, ils m'ont lancé un peu dans la nature en disant on a trouvé, on pense que c'est ça, elle remarche, go. On m'a pas dit maintenant, attention, on m'a rien dit et on me dit encore jamais rien. Le seul truc qu'on m'a dit, c'est que voilà, on m'a diagnostiqué cette maladie. Donc maintenant, on peut le dire qui est la maladie de l'homme raide. Au début, on me disait ça et.
J'avais jamais entendu ce terme. Tu l'avais entendu, toi ?
Non, jamais. Évidemment. Et quand on me l'a dit, forcément, première chose que tu fais, c'est que tu vas sur Google.
Évidemment. Pour trouver toutes les merveilleuses informations.
Ouais, et tu trouves tout ce que tu n'as pas envie de trouver. Et j'étais là, OK, c'est une maladie, mais personne ne sait ce que c'est. Personne n'a de réponse à ce que c'est. Mais effectivement, oui, ça coche toutes les cases de ce que je ressens. Cette maladie, elle est vraiment très peu connue. On me l'a dit homme raide et un autre neurologue m'a dit, genre 2 jours après, on l'appelle surtout le Stiff Person Syndrome à l'international. Et il s'avère qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait 3 jours que cette maladie est connue internationalement grâce à
Céline
Dion.
À Céline. Alors c'est trop fou parce que... On a prévu ce podcast depuis plusieurs semaines et je crois qu'il y a 3 jours, j'envoie un message à Pauline quand je vois la vidéo de... Céline Dion a fait une vidéo où elle s'adresse directement du coup à ses fans et à ceux qui ont commandé des billets pour ses concerts et sa tournée européenne. Et donc elle parle de sa maladie et elle dit le mot. Et moi, je ne l'avais jamais entendu en anglais. Donc sur le moment, je n'ai pas tilté. Et au fur et à mesure que la vidéo se déroule et qu'elle parle de ses symptômes, je pense à toi et je me dis « Oh, mais c'est exactement la même chose ». Donc, c'est fou le timing parce qu'elle dit un truc que tu m'as jamais dit, c'est que ça touche 1 personne sur 1 million.
Oui.
Quelle est la... Enfin...
Il faut que je joue au loto, tout le monde me dit ça maintenant, du coup.
Ouais, ce serait bien.
Oui. Mais c'est ça aussi tout le problème, c'est que quand tu as une maladie auto-immune et que ton système immunitaire est en attaque tout le temps, tu développes des maladies chroniques parallèles. Et moi, du coup, ça fait 1 an et demi que je développe des maladies chroniques parallèles qui sont du coup les tendinites que j'avais. En fait, là, elle s'était pas trompée, j'avais vraiment une tendinite, mais parce que mon muscle était déjà en lutte. Mais même si les cachets font effet et qu'aujourd'hui je marche, je cours, je fais vraiment tout ce que je veux, malgré la douleur, hein, j'ai toujours mal.
Et t'as mal comme au tout début où
Je sais plus parce que la douleur est tellement constante que je sais plus faire la différence entre mal ou très très mal. Des fois j'ai vraiment très très mal.
T'es habituée en fait.
Oui, c'est ça. Et tout à l'heure tu disais oui, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie et moi je suis entre guillemets contente. Du coup je refais le parallèle avec Céline Dion, qu'elle ait parlé de cette maladie parce que je me suis dit ah, enfin on va pouvoir en entendre parler internationalement parce que ça fait 2 ans du coup que je suis suivie à l'hôpital et que je vois à chaque fois quelqu'un de différent. Soit parce qu'il m'arrive une couille, encore il y a 15 jours j'étais aux urgences parce que j'avais des vertiges, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai dit, j'ai pas vraiment d'antécédent si ce n'est cette maladie. Et on m'a dit, quoi ? C'est quoi cette maladie ? Enfin, on ne sait pas.
Et du coup, même eux, ils ne savent pas.
C'est oui, personne ne sait en fait. Et même mon neurologue qui m'a diagnostiqué n'a pas de réponse. C'est ça le plus frustrant. Quand Céline Dion l'a dit, j'ai dit... Ah, enfin, je vais pouvoir aller à l'hôpital et dire j'ai la maladie de Céline. Et ils vont me dire ah, ok, c'est bon, on connaît. Enfin, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais on a déjà entendu parler de cette maladie.
Je pense que c'est super bénéfique pour vous, même si c'est dommage qu'on doive attendre d'avoir ce genre de célébrité qui en parle pour être reconnue en tant que malade. Mais au final, pour vous, vous n'êtes pas beaucoup. Mais ça permettra au moins d'être mieux entendue, peut-être mieux accompagnée.
Oui, mieux accompagnée peut-être. Après, ils sont toujours aussi paumés. Et quand je vois que Céline Dion, elle est suivie depuis 1 an et demi par un thérapeute, par des kinés, et qu'ils n'arrivent pas non plus, et que du coup, elle a annoncé qu'elle arrêtait tout jusqu'en 2024, ça laisse très peu de, d'espoir. Et elle a, entre guillemets, le luxe de pouvoir se dire « Ok, même si c'est fini pour moi et même si c'est horrible, elle a le luxe de se dire « Ok, j'ai plus rien à prouver, en fait. J'ai encore 33 ans, on le disait tout à l'heure, j'ai encore soif d'aventure, soif de vie, soif de tout. J'ai pas envie que ça s'arrête. » Enfin, non, en fait, c'est non dans ma tête.
Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement.
Non, c'est vraiment incurable. Je l'aurai toute ma vie. Mais ils savent que les cures d'immunoglobuline, donc ce que j'ai fait à deux reprises, sont plus ou moins bénéfiques.
Ça, tu peux expliquer ce que c'est ?
Oui, en fait, c'est des cures de plasma. Ils changent en fait ton plasma, ils le modifient. Donc, tu es sous cathéter pendant 4-5 jours et ils te mettent du plasma en fait dans ton sang pour que ton corps lutte moins et puis surtout pour essayer de stabiliser le taux d'antigade. S'attaque à ton corps. En fait, c'est des anticorps qui attaquent donc ton système immunitaire. Donc les anticorps, pour parler médical, s'appellent les antigades. Et j'avais vu mon neurologue en juin, puis je l'ai revu là en septembre, qui m'a dit oui, ça serait trop cool qu'on refasse une cure quand même, même si tu l'as bien vécu. Je pense que c'est pas du luxe d'en refaire parce que on ne sait jamais. Donc j'ai accepté de faire ça en septembre et là il m'a dit c'est un peu chiant, on dirait que ça augmente vu tes symptômes et tout ça. Il a dit mais ça dépasse mes compétences, là il faut que j'aille voir mes consoeurs. Donc j'ai dit ok, donc ils m'ont refait une ponction lombaire et effectivement il y a 15 jours ils m'ont dit effectivement en fait ça n'a pas du tout baissé.
Okay.
Mais tu as mieux supporté cette nouvelle cure d'immunoglobuline, donc... il m'a appelé, oui, il y a une quinzaine de jours, en me disant « ça n'a pas attaqué ton cerveau pour le moment, parce que c'est ça qui est un peu chiant, c'est que forcément ton corps est en lutte tout le temps, donc à tout moment ça peut attaquer une autre partie de ton corps, même le Valium à long terme, en fait, c'est pas cool. » Donc il a dit « on veut éviter à tout prix une attaque cérébelleuse, donc il faudrait que tu fasses une cure d'immunoglobuline toutes les semaines, là pendant 6 mois, mais pour voir. » En fait, ils font... Je pense que c'est un peu malheureux à dire, mais j'ai un peu de l'empathie aussi pour eux, parce que eux-mêmes, même ma généraliste, quand je vais la voir pour lui expliquer et tout ça, ce que je ressens, elle me dit « mais en fait, je suis désolée, parce que moi-même, j'ai pas les mots sur tes propres mots. » En fait, elle dit « je sais pas », elle dit « il y a que toi qui peux savoir et qui peux nous dire ». Et c'est un peu compliqué, parce que personne qui est atteint par cette maladie a les mêmes symptômes, donc on est vraiment seul. Seul avec notre douleur et seul face aux médecins qui eux-mêmes sont démunis, en fait. J'aimerais bien qu'on me dise vraiment clairement les choses, mais ils peuvent pas.
Après, du coup, ça doit renforcer encore plus cet état d'esprit que tu avais déjà, de se dire, bon, bah, de toute façon, je profite déjà de tout ce que j'ai à fond. Et là, on sait jamais ce qui peut se passer. Et finalement, il s'est passé quelque chose et tu continues à garder cette mentalité parce que, ben, y a que ça à faire ou... Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais... J'imagine qu'il y a de l'échange entre malades. C'est assez fréquent dans ces cas-là, surtout quand on a du mal à se faire diagnostiquer. C'est bien de se sentir soutenu par des personnes qui vivent la même chose que toi. Voilà, est-ce que ça a changé vraiment ta mentalité et ton rapport à la maladie entre le moment où tu as été diagnostiqué et maintenant ?
Ça a surtout changé le fait que ça a décuplé mon envie de vivre. Vraiment, quoi. Parce que quand j'ai été diagnostiquée, je venais du coup d'adopter mon chien.
Poppy.
Bisous Poppy.
Poppy, si t'entends ce podcast, on sait que tu l'écoutes.
Et vraiment, les premières pensées que j'ai eues, c'est vraiment si je ne peux plus marcher, comment je vais faire pour promener mon chien ? Vraiment des questions bêtes, mais fondamentales. Comment je vais faire pour aller courir ? J'ai encore envie de courir. C'était quasiment du jour au lendemain, en fait. Bah, comme tous ceux qui ont eu un grave accident. Et je me suis posé ces questions-là. Comment je vais faire ? Et en fait, dès qu'ils m'ont donné la pilule là, magique et que j'ai pu redanser, j'ai dit « Ok, go maintenant. »
La pilule de la Macarena.
La pilule de la Macarena. Déjà, je n'avais pas de temps à perdre. Déjà, le slogan de mon propre blog et de mon... Enfin, c'était « Profiter partout, tout le temps ». Mais là, c'est tout le temps, quoi.
Tout le temps, même quand je dors.
Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué parce qu'avec cette maladie, du coup, tu profites tout le temps. Mais le kiné m'a dit, est-ce que tu vois un psy, un thérapeute ? Est-ce que tu sais un peu plus écouter ton corps ? Maintenant, est-ce que tu sais ralentir ?
J'allais te demander.
Et en fait, non.
Ah, d'accord, très bien. Allez.
j'essaie vraiment, sauf que c'est super difficile quand, justement, j'ai pas de date butoir et je sais pas quand est-ce que ça va empirer ou pas. J'ai envie de profiter maintenant avant que j'ai vraiment beaucoup plus mal. Et du coup, je continue le sport dans le fameux club où je m'étais inscrite. Enfin, je fais encore plus de rando maintenant. Et tant pis si j'ai mal. Mais il me dit, est-ce que ça te fait du bien au moral parce que tu sais que tu marches? Et est-ce que tu sens que t'as mal après? Et effectivement, oui. Mon corps me le fait payer souvent 2-3 jours après. Là, je suis sur Paris sur 4 jours, j'ai fait la fête et tout. Et je sens que dans 3 jours, je vais être en PLS. Mais c'est OK avec ça. Et il faut vivre avec cette idée-là, de se dire, on profite et après, on a un petit coup de bâton. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Donc, t'avances. Et moi, tant que j'avance, ça me va, en fait.
Et les groupes d'entraide, du coup, comment ça se passe? Comment tu as rejoint un groupe?
Alors, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle, du coup, Steve Person Syndrome.
Les hommes raides.
Ouais, les hommes. Il n'y a pas que les hommes, d'ailleurs.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a le modérateur, là, qui, ce week-end, pétait un plomb, parce que, vu que Céline Dion a annoncé cette maladie, il y a tous les fans qui veulent en savoir plus et qui ont essayé de rejoindre ce groupe très privé. Et du coup, les modérateurs pète un peu un plomb parce qu'il y a des millions de personnes qui ont essayé de rejoindre ce groupe. Après, c'est un groupe anglophone. J'ai seulement parlé à 3-4 personnes en un an. Parce qu'encore une fois, personne n'a les mêmes symptômes. Tous ont 60 ou 65 ans, un peu comme Céline Dion, tu vois. Du coup, ils me disent « Ah oui, ah, t'as mal. Oh, en plus, c'est jeune. Enfin, dommage, tu vois. » C'est pas vraiment un groupe d'entraide. C'est plus en mode « Quelqu'un a déjà fait les cures des immunoglobulines, là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Comment vous réagissez, vous? Est-ce que ça fonctionne ?» C'est plus « On est les cobayes. Qu'est-ce que ça fait sur vous, quoi ?» Ou alors, c'est des messages d'espoir, genre « On est des combattants et on va y arriver. »
En fait, c'est ça. C'est d'avoir une maladie en soi, c'est une chose, mais d'avoir une maladie qui est encore très méconnue et qui est très mal accompagnée, en tout cas en termes de traitement, etc., bah du coup, ouais, vous êtes les premiers à tester plein de trucs et j'imagine que ça rajoute en plus quelque chose, une dimension autre que juste la maladie.
Oui.
C'est qu'en plus, t'as pas les réponses.
T'as pas les réponses et surtout, encore, je le disais tout à l'heure, c'est un groupe anglophone, donc on n'a même pas les mêmes traitements.
Oui, c'est vrai.
Puisqu'en plus, ça atteint, ben, Céline Dion, c'est sa voix, moi, c'est ma jambe, il y en a, c'est le cœur. Ça atteint tous les muscles, en fait. Et le seul lien, pour le moment, que j'ai fait avec les personnes... je le disais au début de podcast, les maladies neurologiques, c'est qu'on dit souvent la maladie, la maladie, la maladie. Et en fait, on décompose jamais le mot qui est le maladie. Et en fait, le lien que j'ai fait avec les seules personnes, et même avec Céline Dion, c'est que cette maladie attaque, entre guillemets, ton outil de travail. Et Céline Dion, c'est ses cordes vocales. Et elle a effectivement des spasmes, un peu comme tout le monde. Même moi, j'en ai dans les bras, même si c'est ma jambe qui est atteinte. Mais tout le monde a son outil de travail ou quelque chose qui est blessé,
qui l'handicape.
Et moi, clairement, qui vagabondais partout et tout ça, ben, disais, voilà, tu t'écoutes pas, tu marches, tu continues et tout ça. Ben, clairement, mon corps a dit, il y a rien de plus concret que le corps qui dit stop, qui t'empêche de marcher, quoi. Et souvent, c'est lié à soit un choc émotionnel ou soit vraiment une fatigue physique que tu mets dans le déni tout le temps. Et je pense que c'est ça. Et c'est... Comme c'est neurologique, il faut déjà que je soigne ce qui ne va pas émotionnellement. Et puis peut-être qu'après, ça ira mieux. Mais pour ça, il faut voir un psy, il faut s'écouter, il faut prendre le temps. Enfin.
Et c'est quelque chose que tu fais d'aller voir un psy?
J'ai pas encore fait. Mais là, j'ai commencé seulement après 2 ans et demi, du coup, après avoir été diagnostiquée, à commencer les séances de kiné.
Mmh. De toute façon, tu peux pas tout faire en même temps, tu peux pas tout mettre en place à peine sortie de l'hôpital,
c'est trop ça.
D'un coup.
En fait, je suis très reconnaissante envers le neurologue qui m'a diagnostiqué parce que vraiment, chapeau à lui quoi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'âge d'écart, je crois qu'il doit avoir la quarantaine et je me dis, bah, mec, t'es trop fort, puisque pour l'anecdote, on m'appelle Stitch. Enfin, sur des rapports de l'hôpital, il y a tellement personne ne connaît le mot qu'on m'a déjà appelé Stitch maladie, Steve.
Ouais.
Enfin, c'est n'importe quoi.
Maman de Stifler.
Du coup, il y a vraiment tous les mots, quoi. Et
donc, ah oui, c'est la maladie de Steve. Oui, c'est la petite blonde là. dans la salle d'attente.
Et tout ça pour dire que oui, je suis extrêmement reconnaissante envers lui. Et en même temps, je me dis, le parcours médical en France, quand t'es malade, il faut vraiment que tu le fasses toi-même, en fait. Parce que c'est pas mon neurologue qui m'a dit, bah, en fait, ta vie va changer. Je suis peut-être naïve, mais à aucun moment, il m'a dit, bah, ça va changer pour toi. Peut-être qu'il faut aller voir le kiné d'abord et surtout te faire aider psychologiquement.
Qu'est-ce qui a changé depuis le diagnostic dans ta vie perso et même avec les membres de ta famille? Est-ce que votre relation a changé, même si vous étiez déjà super proches? Est-ce que tu as senti en 2 ans quand même un gros changement?
Bah, un peu, comme tu le disais tout à l'heure, j'en parle pas trop parce que je sais que bah, ça inquiète, surtout le fait qu'on ne sache pas et moi non plus. Donc j'ai tendance à mettre un peu tout sous le tapis et puis c'est ma personnalité aussi de toujours rigoler et de... Ah, c'est le truc en mode rigolade, genre le truc Stitch et tout. Moi, ça me fait rire, mais pas rire au fond, parce que je me dis, bah, en fait, même à l'hôpital, même quand je vais mal, en fait, je finis avec un rapport d'hôpital où le nom de ma maladie est mal écrit, quoi.
Oui.
Donc, quand t'es fatiguée...
C'est pas rassurant.
C'est pas rassurant. Et ouais, ça a changé parce que, genre, ma mère, vraiment, la pauvre, elle m'a vue tomber une fois et ça l'a vraiment traumatisée. Du coup, elle a peur tout le temps. La pauvre, elle est tout le temps, non, ne tombe pas. Enfin, ou, attention, Poppy, elle a trop de force, elle va... Je dis, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, je tiens debout, fais-moi confiance. Et moi, je sais aussi maintenant, je sais apprivoiser cette maladie. Donc, je sais que si je m'approche d'un précipice, encore une fois, on parlait des émotions tout à l'heure, j'avais pas du tout le vertige. Maintenant, je sais forcément que même si je n'ai pas le vertige... Comme je suis tombée, j'ai un peu cette panique de tomber. Du coup, j'ai un stress inconscient qui se met et là, mon corps se fige. Du coup, je sais que c'est plus possible pour moi d'aller sur un truc un peu risqué, un peu tendu. Mais oui, ma famille essaie aussi un peu de noyer le poisson parce que bon, c'est un peu dark au quotidien quoi, d'en parler. Forcément, ils sont inquiets. C'est très difficile parce que, encore une fois, des fois, moi-même, je ne comprends pas. Tout le paradoxe de cette maladie, c'est que oui, je me sens vraiment très accompagnée et ils sont vraiment très bienveillants et voilà, ils font attention et tout ça. Mais en fait, toutes les émotions que tu as... Comme le bonheur, la tristesse, la douleur en fait partie. T'es le seul, en fait. T'es seul à pouvoir, quand tu perds quelqu'un, un membre de ta famille, t'es le seul à savoir à quel point ça fait mal. Et c'est comme la douleur, chacun a son seuil de tolérance. En fait, je suis très bien accompagnée, très bien comprise, mais bah, je suis toute seule. Donc, ils sont là, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être très entourée. Mais finalement, c'est un combat solo, quoi. C'est solo contre mon corps. Et ça, c'est la partie la plus dure parce que mon corps, je ne le maîtrise pas. Seul avec du monde autour, comme dirait un certain Aurel Sam.
Un petit rappeur qui démarre. Dans tes projets, donc avec cette information maintenant que tu as, est-ce que ça a changé tes plans pro et tes plans perso? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remaniées en te disant bah, « ça, je vais le remettre à plus tard » ou « ça, il faut que je fonce, je le fais ».
Oui, bah, clairement, en fait, ça, j'étais vraiment dans le déni. Comme tu disais, je n'avais pas vraiment mis les mots sur mes mots, encore une fois. Donc, je m'étais lancée à fond dans le travail en créant de nouveau quelque chose d'autre. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout parce que le rythme n'allait pas non plus avec mon nouveau rythme de vie, quoi, tout simplement. Et du coup, oui, maintenant, je prends le pari encore d'avoir zéro regret. Maintenant, encore plus que toujours, c'est une journée à la fois et j'essaie de me projeter, pas beaucoup, mais je vis à 100%. Mais je prends surtout plus le temps pour ce qui ne mérite plus, vraiment, quoi. Cette année a été vraiment décisive et j'ai compris moi-même, en fait, qui j'étais aussi à travers cette maladie. Alors, ça n'a pas du tout changé ma personnalité, mis à part le fait d'amplifier mon envie de vivre, en fait, ma soif de vivre.
Je pense que ça modifie d'une certaine façon toujours un peu ta personnalité, pas qui t'es au fond, mais l'enrobage.
Oui, c'est ça.
Que tu as envie d'y mettre. Et des fois, la patience est mise à rude épreuve, l'optimisme. Donc forcément, ça change, c'est obligé de changer des petits traits ta personnalité, mais c'est parfois pour le mieux.
Ouais, oui, complètement, parce que il y a quelque chose que je ne faisais, enfin que je faisais jamais, c'était vraiment l'introspection. Pourtant, j'ai toujours été vraiment très penchée sur la fascination de la spiritualité de manière générale, etc. Et pourtant, je faisais vraiment très peu de méditation ou très peu d'introspection. Et maintenant, Vraiment, j'analyse mon comportement, mes émotions, parce que je sais aussi que c'est pas forcément moi, c'est aussi peut-être mon cachet ou la maladie qui a cet effet sur moi. Du coup, des fois, quand je suis un peu en colère, toi, tu me connais, tu vas dire, toi, t'es en colère des fois. Mais si je me sens un peu irritée ou si je me dis, ok, est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est parce que j'ai mal? Est-ce que...
Et du coup, découpe le...
Ouais, je découpe vraiment. Et du coup, j'en apprends sur moi chaque jour encore plus. Et pour ça, c'est trop cool. Ça, j'aime bien parce que ça me met un sacré défi sur moi-même. Parce que c'est pas donné à tout le monde, en fait, de prendre autant de recul sur soi et surtout de prendre le temps, en fait. Pour l'anecdote, c'est drôle aussi parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Valium, le vrai, ce sont des petites pilules bleues.
Ouh, ça peut être vite confondu.
Alors, je dis, c'est quand même fou, ce paradoxe de ce qui me décontracte. Soit l'inverse de ce qu'on appelle les pilules bleues qui font normalement un autre effet. Quoi.
On appelle le Viagra.
Mais voilà, je crois avoir fait le tour de tout le paradoxe de cette maladie. Et à la fois, je suis très reconnaissante. Des fois, je me dis un peu flemme de l'avoir. Et des fois, je me dis, ça a vraiment changé ma vie. Et merci, en fait. Merci, la vie. Merci, la vie, de me faire profiter encore plus de la vie.
Tu arrives à avoir ce recul qui, moi, me paraît fou, de dire merci.
Merci pour l'expérience.
Merci. Merci pour cette très, très belle aventure. Et je trouve ça fou. Et ça, c'est un travail sur soi qui est considérable, d'arriver à se dire que de toute cette situation-là, on en tire quelque chose de positif.
Oui, c'est très difficile et en même temps, encore une fois, j'ai pas le choix. Donc en fait, je préfère, au lieu de me lamenter sur mon sort et me dire je sais pas, alors je te dis pas que tous les jours j'ai cette mentalité-là, mais des fois, c'est, ce soir peut-être pendant une heure, je vais être en mode fais chier, j'ai mal et tout. Mais finalement, je l'ai quand même tous les jours en mode je marche et pour moi, c'est l'essentiel pour le moment. Je demande pas plus et. Vraiment, je demande pas plus. C'est OK si je suis malade toute ma vie. Mais tant que je marche et tant qu'on arrive plus ou moins à trouver et que j'arrive à équilibrer mon traitement et tout et à profiter comme je l'entends et surtout à optimiser mon temps comme je l'entends aussi, c'est OK. Et surtout, ça m'a pas du tout enlevé cette soif d'aventure et de vie. Au contraire, je me dis peut-être que rien n'arrive par hasard. Ça, c'est peut-être mon côté... J'ai un peu trop regardé La Petite Maison à la Prairie, tu vois.
Tu penses qu'il y a une leçon à tirer de...
Ouais, je pense qu'il y a clairement une leçon.
C'est vrai que t'es fan de La Petite Maison à la Prairie.
Mais oui.
Tu m'en parles tellement.
Marie Ingalls n'est pas aveugle pour rien,
je
tu vois.
Mais il y a bien une personne qui regardait ça entre midi et deux. Oui, c'est Pauline.
Non, mais pour tous ceux qui écoutent, qui ont vu La Petite Maison à la Prairie... Les Ingalls, il leur arrive toutes les merdes du monde.
Ah elle a perdu la vue.
Oui, mais grâce à ça, elle a trouvé l'amour.
C'est vrai.
Elle est devenue enfin maîtresse.
Avec Almonzo.
Non, c'est ça, pas tu lui. Te trompes. Avec Adam.
Oh, je ne sais plus, je ne connais pas les noms.
Mais du coup, oui, chaque épreuve t'apprend quelque chose. Et ça, je pense que c'est un peu mon côté spirituel et positive attitude. Et encore une fois, je n'ai pas le choix. Donc, de toute façon, il vaut mieux voir les choses de cette façon-là. Parce que sinon... Je ferai quoi?
Et c'est quoi les prochains projets?
Les prochains projets, du coup, c'est peut-être d'être hospitalisée, d'accepter cette...
J'ai cru que t'allais me dire. J'aimerais bien partir, du coup, quelque part, seule.
Ah oui, clairement, oui, mon projet, ça serait de partir avec mon chien, et partir à pied longtemps ou faire un truc et tout ça. Mais là, ce qui m'a été proposé pour les 6 mois à venir, c'est un autre délire.
C'est un très, très beau voyage. C'est horrible, on en rigole, mais de toute façon, D'accord, donc la petite aventure des prochains mois, c'est une hospitalisation.
C'est soit, oui, j'accepte, et encore une fois, le corps médical, mon neurologue me donne pas trop le choix, et en fait, j'ai le choix, comme tous ceux qui ont un cancer, d'accepter ou pas la chimio, t'as toujours le choix. Tu peux dire oui un jour et non le lendemain, en fait. Donc là, s'il m'appelle la semaine prochaine en me disant, parce que c'est toujours un peu comme ça dans ce service, t'es hospitalisé le jour même. Il y a de la place, tu viens le jour même. Et s'il m'appelle la semaine prochaine, soit je dis oui, soit je repousse. Donc on verra.
Donc ce serait une hospitalisation pour faire quoi?
Pour faire encore ces fameuses cures d'immunoglobuline, là.
Et ça dure combien de temps?
C'est 4 jours.
Okay.
C'est 4 jours sous cathéter. Et en fait, C'est un peu paradoxal encore ce truc-là, c'est que j'aime pas du tout être dans ce service qui me rappelle justement les années 2020 où j'étais en stress, c'est le même service. Et à côté de ça, t'es dans un service, la neurologie c'est vraiment pas cool, où t'as des patients vraiment gravement atteints. Et encore une fois, où à chaque fois, je ressors de là et je me dis, punaise, j'ai vraiment de la chance parce qu'il y a des cas vraiment très sévères. Et à chaque fois, je ressors avec une méga leçon, quoi. Et je me dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre, il y a pire. Donc, c'est soit j'accepte ça, ou soit je monte un nouveau business, j'ai créé d'autres choses, j'ai plein de projets en tête. Donc, je suis vraiment en roue libre.
Tout est possible, finalement,
oui,
maintenant.
Oui, clairement, encore tout est possible. Ouais, encore plus qu'avant. Donc, ouais, vraiment, tout est possible.
Dommage que t'aies pas fait la Coupe du Monde cette année. T'étais presque prête, hein.
Ouais.
Ah, les ligaments croisés, tu connais.
Hein. Oh, okay. Que des chouchottes, putain.
Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des podcasts ou des trucs que t'as envie de recommander pour quelqu'un qui rentrerait un peu dans le parcours médical? Est-ce que toi, il y a des trucs qui t'ont un peu éclairé
Alors, concernant ma maladie, non, parce que c'est très peu connu. Mais le seul conseil que je donnerais maintenant, c'est le conseil que j'ai eu de mon kiné. C'est déjà de se faire suivre, déjà de poser les mots en fait, sur ce qui arrive. Et même si moi, j'étais dans le déni, ça m'aurait peut-être aidé il y a 2 ans, en fait, de me faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, parce qu'on en parlait tout à l'heure. La famille, elle est là, OK, mais à part leur transmettre un peu tes angoisses et encore plus de peur parce qu'en fait, ils peuvent rien faire. Un psy va juste être là, t'écouter et te donner un peu les clés, mais ça va pas... OK, s'il a un peu d'empathie, ça va le toucher et tout ça, mais c'est pas un membre de ta famille, donc il a pas peur de te perdre. La chose que je dirais, c'est si vous êtes atteint d'une maladie telle qu'elle soit, c'est de vous écouter, de soigner vraiment le mal et d'en prendre conscience avant que ça prenne vraiment trop de place, quoi. Même le moindre petit truc... Écoutez-vous, en fait.
Mais merci beaucoup. Merci, Pauline.
Merci, Léa. C'était trop cool. J'espère que pas c'était trop. Trop...
Est-ce qu'on peut dire que c'était trop cool? Oui, allez, on va dire.
Oui, non, on n'a pas plombé l'ambiance. Franchement, c'est il fallait en parler, mais voilà.
C'est la stiff person syndrome la plus drôle, je pense.
Merci à Pauline de m'avoir confié son histoire au micro de The Raccoon Club. Aujourd'hui en France et dans le monde entier, il y a encore des maladies difficiles à diagnostiquer. La médecine s'adapte et évolue tous les jours. Mais de nombreux malades restent en errance thérapeutique et ont besoin d'être mieux accompagnés. Si c'est votre cas, sachez déjà que vous n'êtes pas seul et que si ce témoignage vous touche, vous pouvez nous écrire sur notre compte Instagram pour que votre message soit partagé avec Pauline. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon super Instagram, @RaccoonClubPodcast, et surtout, en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.